Bonjour.
Non, pas grand-chose.
Vous êtes en forme ce matin? Je veux en profiter, et toutes nous autres ici en avant, on va en profiter pour souhaiter à tous les mamans ici bonne fête. Hein? Une main d'appréciation pour toutes les femmes, les mères ici. Hein? Bonne fête, maman. Eh bien, quand on apprend qu'on va devenir maman, on est tout excité, il y a beaucoup de joie. Et puis, on est très content. Mais ça a son lot de défis aussi, et c'est ça qu'on veut parler ce matin, les deux, la joie et aussi les défis, et qu'est-ce qu'on peut apprendre de tout ça. J'ai le plaisir d'être accompagné de trois femmes ici ce matin, des femmes de Dieu, des mamans, et alors elles ont de l'expérience, elles vont nous partager un peu leur vécu et ce qu'elles ont appris à travers les années. Donc, elles vont se présenter.
Bien, bonjour, moi c'est Cheryl, ça c'est ma belle famille, je suis mariée avec Yves Girard, on va fêter 15 ans cet été. Alors, on est bien excités de tout ça. Merci. Alors, on a un garçon, c'est pas notre plus grand, mais c'est notre plus vieux, il est tout là. Léane, qui a, bien, Simon il a rendu 11 ans, Léane 9, Jaël a le 7 et Kimia elle va avoir 6 ans bientôt. Alors ça, c'est notre famille, il manque nos trois chiens qui complètent le tout, on exagère un petit peu, mais voilà, on aime ça bien rempli. Et j'ai été 10 ans à maman à la maison, et là, en ce moment, j'ai fait un retour au travail cette année en tant qu'éducatrice spécialisée en milieu scolaire primaire. Alors, c'est une nouvelle étape, et on vieillit un petit peu, là. Alors, c'est ma famille.
Merci. Ah. Ah. Bonjour, mon nom, c'est Amélie Dumas-Larabie. Ça, c'est nous, c'est ma famille. Donc, je suis mariée avec Georges Larabie. J'ai trois enfants qui sont maintenant des ados. William, 16 ans, Kyria, 14, puis Josué, 12. Donc, c'est ça. Moi aussi, je suis restée à la maison jusqu'à temps que le petit dernier commence la maternelle, le jardin. Puis, depuis ce temps-là, je suis retournée aux études pour 2 ans, et puis j'ai travaillé à temps partiel. Puis, cette année, j'avais mon service de garde avant puis après l'école, puis je travaillais aussi dans une école comme éducatrice spécialisée, comme Cheryl.
Alors, ben voilà ma famille. Donc, moi, je suis l'épouse de Boniface, que vous avez vu tout à l'heure pendant le temps de louange. Et j'ai trois enfants qui sont grands quand même. Alors, tous plus grands que moi. Donc, mon aînée, c'est Mélodie, elle a 21 ans. Ensuite, c'est Florian qui a 19 ans. Et la petite, 17 ans, Myriam. Et moi, je n'ai pas travaillé à l'extérieur. Depuis que je suis au Québec, ça fait 23 ans qu'on est au Québec. Et j'étais à la maison et je continue d'être une maman à la maison à temps plein. J'ai fait l'école maison pendant les années de primaire de mes enfants et ils ont tous fait l'école au secondaire dans une école publique. Voilà pour moi.
On retrouve vraiment un beau témoignage dans la deuxième lettre de Paul à Timothée, qui parle de l'influence des mères et même des grands-mamans. C'est dans 2 Timothée 1,5 qui dit « Je garde en effet », c'est Paul qui écrit à Timothée, il dit « Je garde en effet le souvenir de la foi sincère qui est en toi. Elle a d'abord habité ta grand-mère, Loïs, et ta mère, Eunice. Et je suis persuadé qu'elle habite aussi en toi. » Eh bien, ce matin, on veut regarder certaines questions ensemble et nos sœurs vont nous partager un peu leur vécu. Première question que j'aimerais poser, c'est quoi pour vous être une maman en 2019?
Bien, je vais commencer. Je pense qu'être maman en 2019, ce n'est pas toujours ce qu'on veut être. En 2019, il y a énormément de pression de réussir notre rôle de maman, mais de réussir notre rôle de femme, d'épouse, de travailleuse, d'avoir un corps comme à 20 ans, de ne pas le perdre, d'avoir la maison parfaite comme Pinterest, rien de moins. C'est vraiment beaucoup d'exigences, puis on y adhère. Moi, la première, sans même le réaliser durant les années, j'ai été victime de la pensée de super maman, super woman. Puis j'ai vite réalisé que c'est hyper épuisant, très épuisant, et même on vit toujours l'échec, c'est impossible. Alors, moi, les exigences de super maman, super woman, mais je suis vraiment plus capable. C'était comme un processus avec le Seigneur, je pense, depuis quelques années, surtout depuis 2 ans. J'ai suivi un cours qui s'appelle « Vers la maturité relationnelle ». Puis pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, là, je vais lire parce que c'est tellement un cours qui peut être complexe, mais en tout cas, je vais lire pour garder ça simple. C'est une formation qui vise à enlever les obstacles du croyant qui nuisent à sa relation avec Dieu envers lui-même et envers son prochain. Puis moi, je n'avais vraiment besoin là, de refocuser qui est Dieu, qui je suis et comment est-ce que je veux vraiment être vraiment réellement avec les autres. Puis grâce à cet accompagnement, j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont accompagnée et que j'ai réalisé que je croyais beaucoup de mensonges qui étaient épuisants et même faux, qui nuisaient à ma relation avec Dieu, mais envers les autres. J'ai le goût de vous raconter une petite histoire. En tout cas, durant mon processus, le moment où Dieu, j'ai vraiment senti qu'il a brisé, là, qu'il est venu faire comme ça suffit, cette idée préconçue-là, là, que tout doit être toujours bien et bien fait, c'était au fameux Maxi. Un année, j'avais tout préparé. Là. Ma journée était organisée. À ce moment-là, j'étais même à la maison avec ma dernière de 4 ans. Et je me retrouve en ligne au centre d'achat avec mon panier plein. À une famille de 6, là, c'est vraiment des paniers pleins. C'est épouvantable, ça ne roule même plus. Puis là, je m'étais dit, OK, il me reste 23 minutes, je suis capable. Là, comme je vais réussir. J'avais tout planifié, il me restait 23 minutes. Je savais qu'en plus, il faut que tu packes tes affaires. Tu sais, c'est compliqué, le Maxi. Là. Mais ça vaut la peine, c'est moins cher. Puis... là, pendant que j'attends en ligne, je vois que la caissière est nouvelle, mais c'est la seule caissière. Alors, je sais que là, il faut que je sois patiente, puis je n'ai plus beaucoup de patience en moi. Je sais que le temps est compté, l'autobus de mes autres enfants arrive bientôt. Et là, je vois un couple assez âgé qui vient, puis qui se met comme en billet à côté de moi. Tu sais, quand tu ne sais plus qui est la prochaine personne, là? Puis quand tu fais un pas, ils font un pas, puis tu fais un pas, puis ils font un pas, puis là, tu te dis, hey, c'est pas vrai qu'ils me dépassent, je sais que je suis la première, tu sais. Ah, là, j'étais rendue stressée, amère, frustrée, impatiente. C'était vraiment comme ça bouillait en dedans. Puis pour pas aider la situation, ce couple-là, il arrêtait pas de dire, hey, ça n'a pas d'allure, une caisse ouverte, mais franchement, attendre. Puis là, ma petite de 4 ans, se joignait à eux, tu sais, avec la même chanson. Hey, c'est long, hein, maman, c'est long, hein, maman. Puis j'étais comme, oui, c'est long, tu sais. Finalement, je me retrouvais à prier intérieurement, « Seigneur, calme-moi, Seigneur, aide-moi au secours, je ne vais pas arriver, je ne veux pas revenir ce soir. » Il faisait un 12 heures, je savais que 4 enfants à l'épicerie le soir, c'est épouvantable. Puis là, Dieu me chuchotait à mon oreille, « Demande-leur de l'aide. » J'étais comme, « Je ne leur demande pas de l'aide. » Premièrement, ils vont me couper. Deuxièmement, ils n'arrêtent pas de chialer. Puis Dieu chuchotait à mon oreille, « Demande-leur de l'aide. » C'était comme une étape courageuse de dire à un étranger, j'ai besoin de vous. Mais je l'ai fait. J'ai fait par obéissance. Ce n'était pas un désir. J'ai dit, excusez-moi, j'ai vraiment besoin de vous. J'ai besoin que vous me laissiez passer parce que sinon, je vais rater mon autobus de mes enfants. J'ai vraiment besoin de vous. Je suis désolée. Pouvez-vous m'aider? Jour et nuit, ce couple-là est devenu illuminé. On est grands-parents. On comprend ça. On va t'aider. C'était rendu, là. On était en mission au Maxi, la gang. La caissière commençait à être plus rapide. Ils m'ont aidé à faire mes sacs. Je suis partie, il me restait 12 minutes. Je suis arrivée chez nous, il me restait une minute et demie avant que l'autobus arrive. Puis ma fille, elle tapait des mains. On a réussi, on a réussi. Mais cette journée-là, je n'ai pas réussi de revenir à la maison à temps. J'ai réussi à dire, j'ai besoin d'aide. Puis ça fait 2 ans que c'est quelque chose que j'intègre dans ma vie. J'ai besoin d'aide. On a besoin les unes des autres, les uns des autres. Puis pour moi, c'est rendu le cri de mon cœur de librement dire, j'ai besoin de toi.
Ouais.
Vive le Maxi!
J'aime vraiment ce que tu as partagé, Cheryl. J'ai une question. Qu'est-ce que tu dis aux mamans qui te disent, ah, oh, tu as 4 enfants, toi, tu es une super maman?
C'est incroyable.
C'est ce que tu leur dis?
Je leur dis toujours, c'est super d'être maman, mais je suis pas une super maman. Puis c'est important de se le dire, d'arrêter, de l'essayer, mais aussi d'utiliser ce vocabulaire-là. C'est tellement exigeant, nocif, emprisonnant. Mm-hmm. C'est super d'être maman, mais on n'est pas des super mamans.
Mm-hmm. Bon. Pour moi, être une maman en 2019, je le voyais un peu comme 2 volets. C'est un privilège, puis aussi c'est un défi. Je trouve que c'est un privilège dans le sens que la maternité comme telle, c'est un privilège. C'est bien spécial, c'est bien unique. Porter un enfant, le miracle de la vie, là, c'est vraiment spécial. Je trouve aussi que c'est un privilège dans le sens de, on me confie un être humain. C'est quand même pas rien. Je trouve que c'est un privilège aussi dans le sens que quand on devient maman, c'est comme une fenêtre qui s'ouvre sur la vie. Puis après, on voit les choses avec ces lunettes-là. Puis peu importe où est-ce qu'on se retrouve, à l'épicerie ou n'importe où, au parc ou dans un contexte où est-ce qu'il n'y a aucun enfant, on a tout le temps cette vision-là de la vie qui est différente quand on devient maman. Fait que je trouve que tout ça, c'est pas rien. Moi, quand je suis devenue maman, ça fait 16 ans, hein, mes enfants sont grands, je me suis vite sentie démunie. J'étais habituée de bien faire les choses que je faisais. Puis là, tout d'un coup, c'est comme si je me retrouvais dans une situation où est-ce que, ben là, c'était comme un terrain inconnu. Je ne savais pas du tout quoi faire avec ça. Fait que je me suis sentie aussi pas équipée. Tu sais, quand tout a commencé, là, je me disais, OK, là, je pourrais rentrer dans le postpartum, mais on n'a pas le temps ce matin, ça, c'est une autre affaire. Mais vite, je saisissais qu'être maman, c'est un privilège, mais que ça allait être un agent de transformation dans ma vie jusqu'à temps que je meure, là. Fait que ça, c'est pour la partie privilège. Je trouve aussi qu'être une maman en 2019, c'est un défi. Moi, mon défi, c'est que je me suis... Bien, un de mes défis, c'est que je me suis beaucoup posé de questions par rapport à qui je suis. C'est quoi mon identité à moi? T'sais? Qui je suis vraiment, moi, au fond? Je vais en reparler tantôt dans une autre question aussi, mais je pense que je réalisais qu'au fur et à mesure que je me découvre, moi, puis que je comprends qui je suis, bien, ça a vraiment un impact, t'sais, sur mon rôle de mère puis sur mes enfants. Un exemple qui me venait en tête, c'est je me disais pendant longtemps, tu sais, je me suis fait une idée de c'est quoi une bonne maman. Puis pendant longtemps, moi, je voulais être une maman douce, qui parle pas fort.
Oh là là!
Puis je me rappelle que, tu sais, vraiment, j'ai essayé, j'ai réessayé. C'était comme un objectif d'une journée. J'ai prié, j'ai supplié Dieu d'être cette maman qui parle pas fort. Oh,
toujours,
hein? Qui est
toujours.
Puis dans le fond, je me suis rendu compte que c'est pas moi ça. Moi, je parle fort. C'est le contraire. Je parle fort. Fait quand il y a une joie, c'est fort. Quand ça va pas, c'est fort. Fait que ça a quand même été une libération pour moi de me dire, mais regarde, je peux juste être qui je suis, tu sais. Puis j'ai pas besoin d'être quelqu'un d'autre. Ça m'a vraiment libérée. Tu sais, je me disais, dans le fond, c'est Dieu qui m'a créée, puis j'aime beaucoup l'image. En tout cas, je ne sais pas si c'est de même que ça se passe en réalité, mais c'est comme ça que moi, je l'imagine. J'imagine le Père, le Fils, puis le Saint-Esprit, tu sais, je l'ai raconté à mes enfants il n'y a pas longtemps, autour d'une table, tu sais, en train de me créer, tu sais. Puis là, de dire, bon, qu'est-ce qu'on va lui donner à elle? Tu sais, on va la créer à notre image. Qu'est-ce qu'on va lui donner à elle? On va lui donner ça, on va lui donner ça, tu sais. Puis c'est comme ça pour chacun d'entre nous. C'est comme un cocktail unique. Fait que, tu sais, je me dis, si c'est Dieu qui m'a créée, bien, c'est aussi lui qui peut me révéler vraiment, tu sais, qui je suis dans mon intimité avec lui. Fait que Dieu non plus, il ne veut pas que j'essaie d'être quelqu'un d'autre. Je pense que c'est en connaissant qui je suis que je peux le mieux exercer mon rôle de mère.
Absolument.
Elles sont jeunes, mais elles ont déjà beaucoup d'expérience et elles ont déjà dit beaucoup de choses importantes comme maman. Alors moi, je rebondirai sur les deux mots d'Amélie, privilège et défi. Et mon rôle de maman, ça me fait penser à le titre d'un livre qu'on a étudié cette année dans le groupe de Femmes en croissance. Femmes en croissance, c'est un ministère où les femmes se rencontrent le dimanche soir, 3 fois par mois. Et le titre du livre, c'était nos relations, des bénédictions compliquées. Et je pense que ça explique bien notre rôle de maman. C'est une bénédiction d'être maman, comme un privilège, hein, parce que ben, c'est un cadeau de Dieu d'avoir un enfant, d'avoir des enfants. C'est un cadeau de Dieu. Et on a tous des souvenirs, des moments merveilleux avec nos enfants, de la joie, des moments de complicité, des moments où on est fiers de nos enfants. On peut, en tout cas, on a tous des moments qui nous viennent à l'esprit. Quand on oublie un peu, quand on vieillit, on peut regarder des photos pour s'en souvenir. Mais c'est quand même des temps privilégiés, comme des jours comme aujourd'hui, pour les mamans qui reçoivent des petits cadeaux de leurs enfants, des attentions. Donc ça, c'est le côté bénédiction. Mais seulement, c'est pas seulement des bénédictions, c'est des bénédictions compliquées. Mm-hmm. Et là, on l'a vu un peu avec nos sœurs. Et c'est compliqué parce que, bon, dans, dans nos relations de maman, c'est vrai qu'on se met en colère, c'est vrai qu'on se fâche, c'est vrai qu'on se frustre, c'est vrai qu'on dit des choses qu'on regrette. Et pourquoi? Ben, il y a deux raisons. Parce que on est des êtres pécheurs. Même si on a mis notre confiance en Dieu, même si on est enfant de Dieu, on a cette nature pécheresse qui colle à notre peau et qui fait que quand on n'est pas vigilant, quand on est fatigué, quand on est pressé, stressé, pof, cette nature refait surface. Notre orgueil revient, notre égoïsme revient, puis c'est la guerre avec les enfants, quoi. Et c'est compliqué parce que non seulement nous, on est pécheurs, mais nos enfants ne sont pas des anges. Ah, je pense que vous êtes d'accord. Hein. Eux aussi, ils ont hérité cette nature pécheresse, quoi. Eux aussi, ils veulent satisfaire leur égoïsme et tout ça. Donc, l'un avec l'autre, ça fait des gros conflits et ça fait des moments difficiles. Mais, ça peut paraître un tableau assez sombre, mais il ne faut pas oublier qu'il y a la grâce de Dieu par-dessus. Hein. Mm-hmm. Et la première femme de la Bible, c'est Ève. Ève, elle n'a pas eu un rôle de maman facile, hein, parce qu'elle a eu les deux premiers enfants. L'aîné, Caïn, a tué le deuxième, Abel. Donc, elle s'est retrouvée sans enfant. Et c'était la première expérience de maternité. Hein. Sans enfant, le premier a dû fuir loin, le deuxième était mort. Mais Dieu, dans sa grâce, a consolé à Ève et lui a donné un troisième fils, c'est Seth. Et c'est par Seth que Jésus est venu. C'est la descendance de Seth qui a abouti jusqu'à Jésus. Et Jésus qui est venu qui a porté nos péchés sur lui. Donc tout ce qu'on fait qui n'est pas bon, il a déjà subi la punition pour nous. C'est ça la grâce de Dieu. Dieu ne nous donne pas ce qu'on mérite. Donc ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier dans notre relation de maman, la grâce de Dieu par-dessus nos fautes et nos erreurs.
Amélie a parlé d'identité, puis il y a beaucoup de mensonges aussi qu'on se raconte qui rendent ça compliqué. Parlez-nous donc de ça un peu, c'est la question des mensonges.
Des mensonges.
Oui, bien moi je peux commencer, il y en aurait eu une tonne que j'aurais pu écrire, mais je vais me contenter de un. Un des mensonges que j'ai cru, c'est qu'il y avait un modèle d'une bonne mère. Moi, je ne viens pas d'une famille chrétienne. Fait que quand j'ai eu mes enfants, je me questionnais beaucoup, puis je me demandais, mais c'est quoi comme une bonne maman chrétienne? Puis j'ai lu un paquet de livres, puis j'étais comme un peu à la découverte de ça. Fait que c'est comme si après, je me suis comme formée, ça devrait être ça. C'est comme s'il y avait un modèle à imiter puis à poursuivre. Une maman, ça devrait être ça. T'sais, puis là, je me suis fait des idées. T'sais, une bonne maman, ça devrait... lire la Bible avec les enfants. Ça devrait aller jouer au parc à tous les jours. Ça devrait, tu sais, je veux dire, j'avais plein d'idées. Ah oui, surtout, ça parle à voix basse à ses enfants. Ses enfants sont toujours obéissants. T'sais, ça se lève quand on dit de se lever, ça s'assoit quand on dit de s'asseoir, ça ne respecte pas, ça paraît bien et tout ça. Fait que, tu sais, c'est comme si ce mensonge-là, ça revient encore à mon identité. Tu sais, qui suis moi? Puis c'est quoi que Dieu m'a donné, puis c'est quoi mon histoire à moi, parce que c'est pas la même que celle d'Isabelle, c'est pas la même que celle de Cheryl. Fait que dans le fond, en croyant le mensonge qu'il y a comme un modèle d'une bonne mère, moi ça m'a amené à penser que, tu sais, je l'avais pas l'affaire, qu'il me manquait quelque chose, que j'avais besoin de lire un livre de plus, qu'il fallait que je pousse mes limites au lieu de respecter les limites que Dieu m'a données. Puis dans le fond, à un moment donné, avec le Seigneur, j'ai comme démêlé tout ça. Puis, tu sais, je me suis dit, dans le fond, une femme qui a un enfant, bien, c'est une mère, c'est une maman. Puis à partir de là, les possibilités sont comme infinies, là. Mm-hmm. Comme on peut vraiment se permettre d'avoir chacun notre propre couleur, tu sais. Puis de se dire, bien, chez nous, ça a l'air de ça. Puis, tu sais, j'essayais de penser à des petits exemples. Je me disais, bien, moi, le soir, je me couche de bonne heure.
T'sais, moi, à 9 h, je couchais. Cette semaine, j'ai texté ma sœur, wouhou, 8h25, c'est comme, hey, je suis au lit. J'étais bien contente de ça, mais c'est ça, c'est moi. Moi, je ne veille pas le soir jusqu'à 11 h, sinon, je ne suis pas du monde le lendemain. Des fois, les enfants, ils me disent, oh, on est les seuls qui n'ont pas le droit d'avoir nos électroniques dans notre chambre le soir. Mais ça, c'est nous. Ça, c'est la couleur de ma famille. Il y a plein d'autres choses. T'sais. Des fois, les enfants disent, notre maison est petite. T'sais. Nos amis, leur maison est plus grande. Oui, mais ça, c'est chez nous. Ça, c'est notre maison. Ça, c'est nous. Fait que de vraiment se permettre d'avoir notre propre couleur à notre famille, ça a comme aidé à me déprendre de ce mensonge-là. Fait que maintenant, je pense pas qu'il y a un modèle de mère. Je pense que chacune a son propre modèle de mère. Puis je pense même qu'il n'y a pas non plus un modèle d'enfant. C'est comme autant qu'il y a d'enfants, autant qu'il y a de modèles d'enfants. Mais ça, c'est comme une autre histoire. Là. Je n'embarquerai pas là-dedans. Mais,
Moi, je dirais avec. C'est vrai qu'il y a beaucoup de mensonges, comme dit Amélie, mais un mensonge qui revient, qui peut être dommageable, c'est de croire qu'on est responsable de la conversion de nos enfants, qu'on est responsable de leur salut. Et ça, c'est quelque chose sur lequel il faut travailler régulièrement. Et quand on parle d'évangélisation, on est d'accord pour admettre qu'il y a des gens qui sont là pour labourer la terre, il y en a d'autres qui sont là pour semer, il y en a qui sont là pour arroser. Et on sait que c'est Dieu qui va faire germer et faire croître. Mais quand on parle de notre rôle de parent ou de maman, on croit que c'est à nous d'amener nos enfants à Christ et c'est pas ce que Dieu nous demande. Notre responsabilité, c'est de partager l'Évangile avec nos enfants, de partager ce qu'on sait de Jésus avec nos enfants, d'essayer de le vivre. C'est sûr qu'avec toutes nos imperfections, parce qu'on l'a dit qu'on est quand même, on reste avec notre nature pécheresse, mais de faire tout ce qu'on peut pour être des témoins de Christ dans la famille. Mais le reste appartient à Dieu. Et c'est important de s'en rappeler. Et dans la même veine, je dirais aussi qu'on utilise aussi, le passage de la Bible qui dit qu'on reconnaît l'arbre à ses fruits. C'est vrai, on reconnaît l'arbre à ses fruits, mais ça dépend dans quelle saison on est. En plein hiver, il n'y a pas beaucoup de fruits dans l'arbre, donc on ne peut pas trop reconnaître l'arbre. Au printemps, c'est les bourgeons. Et tranquillement, des feuilles vont apparaître. Et il y a la saison des fleurs aussi. Et puis seulement, il y a une saison qui est une saison de fruits. Donc ça me fait du bien de penser à ce genre de réflexion et puis de me dire qu'il faut être patient. Et ça, c'est une qualité qui est nécessaire comme parent, quoi. D'être patient avec nos enfants, de témoigner de l'amour de Christ et puis d'attendre que Dieu se manifeste dans leur vie et selon son plan qui est parfait. Voilà, donc...
Ça m'encourage. Je pense que l'étape de ma vie, on a besoin de l'entendre tout autant. Là. Mais moi aussi, j'ai plusieurs mensonges. Vraiment, je pense qu'il en reste encore même, à vrai dire. Je pense que Dieu est gracieux de nous en montrer un à la fois, des fois deux. Mais pas trop parce que c'est épuisant, les mensonges, parce qu'il faut vraiment les démêler, les comprendre, savoir d'où ils viennent. Puis après ça, on fait quoi avec ça? Moi, je dirais que mon premier mensonge dans la maternité est arrivé même avant d'être mère. Je crois que ça vient de mon désir brûlant d'avoir des enfants. Je me rappelle tout petite, là, quand le monde disait « Qu'est-ce que tu vas faire plus tard? » Je disais « Je vais être maman. » Je savais que c'était un métier. C'est beaucoup de travail. Puis je voyais ça comme quelque chose de grandiose. T'sais. Je voulais vraiment être maman. T'sais. Puis ce désir-là, ben, il ne m'a jamais quittée. Malheureusement, ça a pris des années avant que je puisse l'être. Et cette attente-là était difficile. Alors moi, mon premier mensonge, c'est qu'être maman, c'est chose facile. Tu veux l'être, tu vas le devenir. Alors, pas juste être maman, c'est difficile, mais moi, le processus était long et ardu. Et je me suis sentie vraiment oubliée de Dieu dans « Hey, moi, je voulais être maman. Moi, je suis supposée d'être maman. Si je ne suis pas maman, je suis qui? » J'avais même misé un peu mon identité dans ce rôle-là, que ça devrait être comme ça. Alors, voilà qu'un autre mensonge s'est faufilé. C'était que ben, j'avais moins de valeur si je n'étais pas maman. Alors, c'est comme ces deux mensonges-là, pour moi, ils se suivaient à la chaîne. Mais j'aimerais dire que peut-être aujourd'hui, ben, tu es comme moi. peut-être qu'aujourd'hui, la fête des mères, c'est quelque chose de pénible. J'ai mis Kleenex. Parce que je n'ai jamais pas pleuré à la fête des mères. Ni avant, quand j'attendais de l'être, ni maintenant que je suis reconnaissante de l'être. C'est quelque chose de pénible pour plusieurs. Il y en a qui ne le sont pas parce qu'elles sont infertiles, d'autres parce que les étapes de vie n'ont pas coïncidé avec ce temps-là. Et j'aimerais te dire que tu as de la valeur tout autant que nous ici, que les autres à côté de vous qui sont mamans. Que Dieu, là, son sacrifice à la croix, là, il n'était pas fait pour des mamans ou des papas, il était fait pour tout le monde. Il serait mort juste pour toi. Ça n'aurait rien changé. Il t'aime d'un amour infini. Puis beaucoup de personnes dans ma vie qui m'ont influencée, là, c'est incroyable. Puis certaines n'étaient pas mamans. Il y avait de la valeur à mes yeux. Ils voulaient m'enseigner, m'aimer. Je me sentais écoutée. Puis la famille de Christ offre ça. Dans le corps de Christ, là, il y a toutes sortes de membres, toutes sortes de parties nécessaires. Puis tu l'es tout autant, même si tu n'es pas maman aujourd'hui. Tu as quelque chose à offrir, puis Dieu ne t'a pas oublié. Il y a des plans pour toi. Et des fois, il faut juste oser changer nos plans, puis c'est difficile, c'est des deuils. C'est quelque chose de lourd.
Mais juste rajouter, Shirley, ce que tu mentionnes, c'est important de se rappeler qu'on est sur Terre pour d'abord glorifier Dieu. Et on peut le faire quand on est célibataire, quand on est marié avec ou sans enfant. Mm. Et c'est vrai que quand on attend un enfant et qu'on désire un enfant et que le temps passe et que l'enfant n'arrive pas, que ce désir n'est pas comblé, c'est sûr que ça peut être très douloureux, ça peut être très souffrant, ça peut même conduire comme au désespoir. Mais il faut se rappeler que Dieu est souverain et que quelquefois Dieu répond aux prières, même après un long temps. On a beaucoup d'exemples dans la Bible de femmes qui ont attendu des années avant de voir un enfant. Et même autour de nous, même dans l'Église, on a des exemples hein, de femmes qui ont dû attendre de longues années avant de voir cet enfant qui est arrivé. Mais il y a des fois où Dieu ne va pas donner d'enfant. Dieu est souverain. Et je crois que notre rôle en tant que femme, c'est aussi d'entourer ces femmes qui attendent un enfant et qui n'en ont pas, les aider à accepter cette situation et leur montrer qu'elles ont une place précieuse et particulière dans le royaume de Dieu, qu'elles ont toute une valeur, comme a dit Cheryl, et qu'il y a un avenir pour ces femmes, qu'elles ne vivent pas dans cette attente en oubliant de glorifier Dieu jour après jour. Donc on est là aussi, il faut penser qu'on est là, nous, pour les entourer, pour les encourager. Et puis on peut goûter à la maternité aussi d'une façon spirituelle. Quand on voit l'apôtre Paul, il avait pas d'enfant dans la chair, mais il a été le père de plusieurs enfants. Il a plusieurs fils spirituels. Et il y a des femmes qui peuvent avoir une influence tellement importante auprès de jeunes filles ou d'autres femmes. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut considérer. C'est peut-être le plan de Dieu pour vous. Donc c'est à voir aussi.
C'est dur parce que c'est comme des rêves brisés aussi. Puis c'est quelque chose qu'il faut donner à Dieu. Tu sais, on dit « offre à Dieu ton service », mais offre à Dieu ton cœur. Il a mal, il veut l'entendre. Il n'est pas surpris. J'ai une amie qui dit toujours « il n'est pas jeté en bas de sa chaise ». Il sait notre cœur qui souffre à ce moment-là. Puis moi, je me dirais qu'une des choses qui m'a le plus fait du bien au niveau des mensonges, c'est d'avoir des amis que je pouvais être vrai avec, puis qui étaient vrais envers moi, qui étaient capables de confronter mes mensonges, de me dire « mais pourquoi tu crois ça? Où tu t'en vas avec cette poursuite-là? » C'est tellement précieux d'avoir des gens qui sont capables d'être vrais, de nous dire les vraies choses. En tout cas, je ne pourrais jamais le dire assez combien qu'on a besoin des uns et des autres. Puis moi, j'ai encore besoin de vous pour mes mensonges, mais aussi pour après ça, on fait quoi avec, là, de se tenir la main puis d'avancer ensemble. Alors, c'est ça.
Bien, justement, on va sauter une question. On va aller directement à la dernière qui dit « Qu'est-ce qui vous a encouragé dans votre rôle de mère? » Et tu es en train d'aborder ça, justement. Là. Qu'est-ce qui vous a encouragé, Isabelle?
Moi, je peux y aller dans... il y a beaucoup de choses qui m'encouragent, mais... Je dirais peut-être la première chose importante pour moi, c'est la prière. Parce que je pense qu'on oublie quand même la puissance de la prière, comment c'est important, hein, cette porte ouverte. Quand on prie, c'est comme quand on ouvre notre porte à Jésus pour qu'il vienne en nous. Donc, la prière est importante. Et d'ailleurs, je fais un peu de publicité l'année prochaine avec Femmes en croissance. on va étudier la prière dans certains groupes. Donc, notez-le. Et j'ai le privilège de pouvoir prier avec mon mari chaque matin depuis qu'on est mariés. Hein. On a des thèmes particuliers pour chaque jour pour prier, mais c'est sûr que chaque jour, on confie Dieu à nos enfants. Et ça nous rappelle que nos enfants ne nous appartiennent pas. Donc, c'est important de se rappeler qu'on les confie aux propriétaires, en quelque sorte, chaque matin, dans leurs défis, dans tout ce qu'ils ont à affronter dans la journée. Alors, peut-être que certaines vont dire, oui, mais moi, je n'ai pas de conjoint, ou mon conjoint n'est pas disponible. Mais on peut avoir des partenaires de prière. Et ça, c'est aussi un privilège que j'ai. J'ai deux partenaires de prière depuis plus de 10 ans. On prie ensemble chaque semaine, bon, sauf pendant les temps de vacances, bien sûr. Et ça prend du temps, pas tant que ça, parce qu'on fait ça par téléphone. Donc, ça développe une amitié très, très forte, très importante, et on peut partager nos fardeaux. On peut pleurer ensemble sur les problèmes qu'on rencontre avec nos enfants, on peut s'encourager, on peut prier pour nous, pour être plus patient, plus tolérant, plus plein d'amour, avoir la bonne réponse, tout ce qu'on a besoin en tant que maman. Donc, c'est vraiment important pour moi, et ça m'a tellement aidée dans mon rôle de maman, d'avoir ces partenaires de prière. Donc, c'est ça. Et puis, je dirais encore une chose importante aussi, c'est les autres femmes de l'Église, hein, les autres sœurs plus matures. Dans Tite, dans le livre de Tite, hein, il est dit que les femmes âgées enseignent aux plus jeunes à aimer leurs enfants. Et on a tellement de choses à apprendre des autres. Et à l'église, on a des groupes de femmes où on se rencontre le mercredi, on est avec des femmes plus âgées, enfin de différents âges, mais on peut voir comment les femmes plus âgées font, comment elles ont réagi aux problèmes qu'on a rencontrés. Et je trouve ça tellement enrichissant de voir leur... elles sont des modèles pour moi, elles m'inspirent. Je suis avec des femmes qui ont 10 ans, 20 ans de plus que moi. Et ce n'est pas qu'elles ont eu des rôles de maman faciles, non. Elles ont eu des épreuves, comme tout le monde, mais elles gardent, elles ont un cœur obéissant à Dieu. Elles continuent d'être là, d'aimer Jésus, de servir. Et c'est vraiment une inspiration pour moi. Donc ça, c'est des choses qui m'aident. Et je me dis, moi, c'est comme ça que je veux vieillir, continuant d'être confiant et que Dieu est à l'œuvre. Mmh. Ouais. C'est ça.
Moi, ce qui m'a encouragée puis ce qui m'encourage encore le plus dans mon rôle de maman, je pense que c'est la vulnérabilité. Ma propre vulnérabilité, je pense, envers Dieu. Où est-ce que je lui dis, bien honnêtement, voici où est-ce que j'en suis. Puis je sais que son amour, son acceptation est là. Puis ça fait du bien de se savoir pleinement connu, pleinement reçu, pleinement accepté de lui. Je pense aussi, c'est ça, ce qui m'a le plus aidée, c'est la vulnérabilité des autres envers moi. Ou est-ce que de côtoyer des femmes qui ont osé être honnêtes, transparentes avec ce qu'elles vivaient, dire les vraies affaires, ça m'a été d'une aide extraordinaire. Puis moi aussi, de m'exercer envers les autres, à être vulnérable, à être vraie, à partager mes défis, les mensonges que je crois, où est-ce que je suis rendue. Puis ça m'est arrivé à plusieurs reprises d'expérimenter ça, même avec des voisines au parc, où est-ce que quand on ose s'ouvrir puis être vulnérable, tout d'un coup, l'autre se sent sur un terrain de confiance puis se met à s'ouvrir aussi. Mm-hmm. Puis ça l'a amené un paquet de discussions vraiment enrichissantes puis intéressantes. Puis l'autre chose, tu l'as mentionné aussi, Cheryl, on s'entendait toutes les trois quand même là-dessus. Au niveau des relations, c'est ça qui m'a apporté beaucoup. J'ai appris puis j'apprends encore à travers les relations. Puis j'aime l'idée de s'inspirer, se laisser inspirer par les autres. Puis il y en a eu plusieurs personnes qui m'ont inspirée. Puis je ne me suis pas fait un devoir d'essayer de nommer tout le monde ici, là. Mais je pensais entre autres à ma belle-mère. Je me disais, son amour pour moi... son acceptation, ça a tout le temps été gros pour moi. Puis aussi son courage de me dire des fois des vraies affaires, mm-hmm. Par rapport à mon rôle de mère, qui aurait pu me déranger ou qui aurait pu
j'aurais pu lui en vouloir, mais j'avais envie de grandir, fait que c'était vraiment spécial pour moi. Puis je sais aussi que des fois, il y a des choses qu'elle aurait pu me dire ou qu'elle pourrait me dire, peut-être même aujourd'hui, puis qu'elle a choisi de ne pas le faire, puis de prier pour moi, puis de laisser le Seigneur me le montrer, tu sais. Fait que ça, je trouve ça bien précieux. Je trouve que ma sœur, c'est quelqu'un qui m'inspire, elle est très différente de moi. Mais quand je la regarde, j'y trouve quelque chose de beau, tu sais, puis ça revient un peu à ce qu'on disait au début, tu sais, Dieu, il nous a créés à son image, on porte toute sa beauté en nous. Fait que si on s'adonne à regarder autour, c'est comme « wow, elle, c'est beau, wow », tu sais, c'est inspirant. Mes belles-sœurs, ils m'inspirent, j'y regarde aller avec leurs enfants, puis je suis comme « wow, c'est extraordinaire, qu'est-ce qu'ils font ». Mes amis, mes voisines, parce que je pense pas que se laisser inspirer, c'est juste réservé aux croyants.
Mais non.
Il y a beaucoup de non-croyants qui m'inspirent énormément, des mamans que je vois au parc, je me dis « oh wow, quelle bonne intervention envers leurs enfants, c'est comme, j'ai besoin de m'inspirer de tout ça là
mm-hmm. ».
Je trouve que c'est important dans les relations aussi d'avoir des relations avec des personnes qui pensent pas juste comme moi. Parce que tout le monde porte la beauté de Dieu en eux. Alors, il y a des personnes avec qui c'est plus facile, on s'entend bien, on a la même opinion, je sais qu'on peut discuter pendant 6 heures, mais je reconnais que c'est bon pour moi de côtoyer des gens qui ne pensent pas la même affaire que moi, puis de s'exercer à s'aimer, puis de se laisser inspirer, tu sais, les uns les autres. Fait que ceux qui ne pensent pas comme moi, puis comme Isabelle l'a dit aussi, ceux qui n'ont pas le même âge que moi, de d'autres générations. Dans des personnes qui m'ont inspirée, là, j'ai eu un petit flash aussi à un moment donné. Je pensais à Mme Joannis. William, il était bébé. Un atelier des dimanches soirs, comment prendre soin du cœur de nos enfants. J'ai encore le cahier avec les notes. Mon groupe Les Sentiers du cœur, cette année, c'est vraiment des gens qui m'ont inspirée, qui m'ont aidée dans mon rôle de mère. Samedi passé, une conversation franche et honnête avec Martine Mayette. Puis cette semaine, j'ai vécu quelque chose avec ma fille, puis je me suis rappelé ce qu'elle m'avait dit, puis ça m'a aidé. Mm-hmm. Fait que, tu sais, vraiment s'ancrer dans les relations. Mon mari m'a vraiment contribué à la maman que je suis aujourd'hui, mes enfants, bien sûr, ont contribué grandement à la maman que je suis aujourd'hui. Fait que, les relations.
Oui, moi, c'est ça, je dirais. Le fait que je suis pas seule, mais j'ai jamais été seule. On aurait pu mettre ma photo quasiment en couche à l'église de Gatineau. Là, je veux dire, c'est fou, il y a tellement de femmes et d'hommes, de couples, de familles qui ont contribué à ma vie de façon tangible et vraiment... Mais je ne peux pas passer sous le silence le fait que j'ai le micro, d'être obligée de m'écouter. Mais j'ai vraiment le goût de souligner que j'ai été gâtée. Nous, chez nous, on est 4 générations. Elles sont toutes ici.
Wow.
C'est fou! Moi, j'ai une mère qui a vécu des choses très difficiles. Mon père est décédé, j'avais 8 ans. Il y a plein de monde ici qui l'ont connu. Elle n'a jamais quitté son Seigneur. Jésus est son maître. Il est son héros. Il est devenu le mien. Puis si je voulais enfin être maman, c'est à cause qu'elle m'inspirait déjà. Elle tripait sur son rôle de maman. On le sentait qu'on était un cadeau pour elle. En tout cas. Alors, ma mère, définitivement encore aujourd'hui, que je suis capable de lui demander... Je m'en vais où? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu vois, tu sais, que je ne vois pas? C'est pas toujours facile. Des fois, je n'ai même pas le goût de l'entendre. Je me dis, pourquoi j'ai demandé? j'ai ma grand-mère qui est ici à 86 ans. C'est une petite grand-maman qui n'oublie rien. Elle nous appelle toujours pour demander comment a été notre rendez-vous. Ça me fascine, son amour pour nous. Elle est ici parce qu'elle ne manque rien. Elle ne veut rien manquer. Elle est toujours là, c'est comme notre cheerleader dans la famille, ma grand-mère. C'est vrai! Mes 2 meilleures amies, c'est mes sœurs. Qui peut dire ça? Je suis comme gâtée. On a eu nos 11 enfants en même temps. Dans 7 ans, on a eu 11 enfants. Qui fait ça, tu sais? Vraiment. Mais tu sais, on a des photos de Bédène. On les a fait vieillir ensemble. Puis ils sont les meilleurs amis, eux aussi. Moi, je trouve ça... Je me sens riche, la gang. Vraiment riche. J'ai des amies précieuses. Comme tu dis, Amélie, vraies, là, qui sont capables de dire, « C'est dur aujourd'hui. Prie pour moi. » On a besoin de ça. J'ai toujours eu des mentors dans ma vie, là, tangiblement. Amélie, pendant des années, elle m'a suivie dans les moments les plus fébriles, les plus mélangés dans ma tête. Elle était là. Aux 2 semaines, elle me rencontrait, elle ne me lâchait pas. Je me suis sentie aimée par toi, Amélie.
Madame Larabi, qui me connaît depuis mon enfance, qui m'endure encore aujourd'hui. Tu sais, c'est des femmes importantes. Et si vous n'avez pas cette personne-là, là, bien, soyez courageux, priez au Seigneur, dites-lui que vous voulez quelqu'un dans votre vie pour partager, pour prier. Racontez-lui comment pour vous c'est un désir, puis allez à la recherche. Tu sais, where's Waldo? Where's mon mentor? Allez le chercher, allez le trouver. Puis Dieu, là, il prend plaisir aux uns les autres. C'est son plan. Là. Aimez-vous les uns les autres, c'est pas banal. Là. Alors, je me sens gâtée aujourd'hui, à chaque fête des mères, mais juste d'être ici devant vous, c'est fou.
Hey, merci à notre beau panel. Merci beaucoup. C'est vraiment édifiant de travailler avec vous. Isabelle, est-ce que tu pourrais conclure par la prière? Il y a plein de gens ici qui ont besoin de que le Seigneur puisse toucher leur cœur et les accompagner, les entourer de sa grâce.
Oui, Seigneur, merci pour ta croix, merci pour ton amour, merci parce que tu nous aimes et nous pouvons t'appeler papa. Nous avons cette relation avec toi et je te prie pour tous ceux qui n'ont pas cette relation, Seigneur, avec toi, tous ceux qui te cherchent encore, d'ouvrir les yeux, d'ouvrir leur cœur. Et je te confie les mamans ici ou toutes les femmes qui sont dans cette salle, Seigneur. Tu les connais chacune par leur nom, tu les aimes, tu les appelles, tu veux les encourager d'une manière ou d'une autre, tu veux les consoler. Tu veux les amener un petit peu plus loin sur le chemin. Et Seigneur, je te prie de manifester ton amour envers chacune, de poser ta main sur chacune, Seigneur, qu'elle puisse vraiment ressentir combien elles sont précieuses pour toi. Seigneur, tu vois celles qui sont dans la tristesse. Tu es le consolateur aussi, celui qui console et qui assèche les larmes et qui remplit d'espérance. Je te prie, Seigneur, de faire de cette journée une belle journée pour chaque femme dans cette salle, avec la joie et ta présence. Amen.